Aujourd'hui, dernière séance du cycle sur la crise des musiciens ordinaires. J'ai traité la première fois des musiciens africains exilés ici, d'Afrique noire, exilés ici en France. J'ai ensuite traité des musiciens du Maghreb, en France, ici aussi, avec des mondes sociaux complètement différents, complètement hétérogènes. C'est-à-dire que ce sont les mêmes musiciens dans une même ville, mais ils ne fréquentent pas les mêmes milieux. Et aujourd'hui, je vais terminer en parlant des musiciens français qui sont plus particulièrement intermittents du spectacle. Et nous allons essayer de montrer en quoi il est difficile pour particulièrement un musicien intermittent du spectacle, de rencontrer la tradition artistique critique, c'est-à-dire comme si un monde de l'art était en train de mourir et qu'il était difficile aujourd'hui pour un musicien de fabriquer cette critique sur l'art, avec l'art. Cette critique, on va voir ensuite, plus tard, sociale, mais pas que, c'est-à-dire un artiste peut-il critiquer les artistes, et pas seulement un artiste peut-il s'allier avec les politiques ou des intellectuels pour, on va dire, aider la société à se penser. L'intermittence du spectacle, c'est un statut juridique qui est unique au monde, qui est français, et qui permet, pour dire vite, aux musiciens, comédiens, danseurs, etc., mais aussi aux techniciens du spectacle vivant, de vivre leur métier, de pouvoir vivre leur métier, avec l'assurance d'être indemnisés des périodes de non-travail, sous certaines conditions. Être éligible, avoir travaillé suffisamment pour pouvoir être indemnisé pendant ces périodes de non-travail. C'est donc une assurance chômage. Donc déjà, attention, quand on parle de métier d'intermittent du spectacle, c'est pas si simple. C'est un statut, c'est une assurance chômage. Nous n'allons pas traiter aujourd'hui des propriétés quasi invariantes, des conflits sociaux, de la lutte militante et aussi des pétitions autour de ce statut, qui reviennent régulièrement sur la table des négociations depuis plus de 20 ans. Dans les quotidiens ou les hebdomadaires, on trouve régulièrement des articles qui parlent des intermittents. Et pas souvent en bien, parce que ce qu'on en retient, ce sont des termes stigmatisants comme les intermittents, l'intermittence autorise, provoque des déficits, il y a des fraudes, il y a des abus. Et il y a aussi des présupposés sur le fraudeur, on en parlera tout à l'heure, notamment avec la notion de employeur-employé. Sous le gouvernement Sarkozy, il y a eu des... Pôle emploi a été amené à faire des contrôles de fraude, et il y a eu des... on pourrait dire des actions un petit peu sévères pour identifier des éventuels fraudeurs. Alors les articles d'analyse sur l'intermittence sont rares. On peut pas compter forcément sur les quotidiens ou les hebdomadaires. Il faut regarder surtout du côté de la sociologie et de l'anthropologie, et en particulier Pierre-Michel Minger, ou Menger, mais bon, c'est un français, donc on va dire Minger, pour des études complètes. Pour concevoir de quoi nous allons parler aujourd'hui, pour parler de ce statut aussi, j'ai invité Sarah Batteguet, qui est collaboratrice et qui est aussi administratrice d'entreprises culturelles. Pour que vous sachiez un petit peu comment ça marche, l'intermittence, que vous compreniez la particularité et la singularité de ce régime d'emploi chômage des artistes, des cadres, des techniciens et des ouvriers intermittents qui sont salariés dans les spectacles, le cinéma et l'audiovisuel. Mais il n'y a pas que ce statut. Certains musiciens sont aussi RMistes. On disait RMistes, du moins, fin des années 2000. Par exemple, des chiffres, le nombre de musiciens RMistes en 2007. Il s'agit de la profession, les musiciens artistiques, du spectacle, qui est numériquement la plus représentée et dont les effectifs ont le plus augmenté au cours des dernières années. Les musiciens constituent aussi la première catégorie en effectif parmi les demandeurs d'emploi des métiers du spectacle. En 2006, par exemple, 33 600 demandeurs d'emploi musiciens, soit un quart des demandeurs d'emploi des métiers du spectacle, contre 21 000 demandeurs comédiens, deuxième population en effectif. Cet effectif a augmenté de 39% entre 1997 et 2006. Les demandeurs d'emploi musiciens présentent globalement les caractéristiques suivantes. 78% sont des hommes, proportion supérieure de plus de 11 points par rapport à la moyenne du spectacle. Moins concentrés sur l'Île-de-France et Paris que les autres métiers du spectacle, les musiciens. 28% des demandeurs musiciens en Île-de-France et 13% à Paris, contre respectivement 46% et 26% des demandeurs des métiers du spectacle en moyenne. C'est le métier du spectacle, le musicien, le plus concerné par l'inscription de longue durée à la NPE, à Pôle emploi. 63% des inscrits le sont depuis un an et plus, 35% depuis 3 ans et plus, contre 58% et 26% pour l'ensemble des métiers du spectacle. Ils sont le plus souvent bénéficiaires des minima sociaux, 16% contre 13% en moyenne pour les métiers du spectacle. Aujourd'hui, on pourrait dire que vouloir vivre de la musique expose sans conteste à une précarisation. Est-ce qu'on pourrait, Sarah, présenter par exemple l'idéologie de l'intermittent du spectacle, particulièrement sur en tant que fraudeur, en tant qu'abus, en tant que déficit, qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de présenter l'intermittence du spectacle? De quoi l'accuse-t-on, l'intermittent? Pourquoi est-il toujours montré du doigt? Alors, et stigmatisé?
Je pense que la première chose, c'est que pour avoir ce fameux statut, en fait, pour bénéficier des annexes 8 et 10 ou 10 de l'UNEDIC, il faut travailler 507 heures sur 319 jours, soit à peu près 10 mois et demi. Donc ça voudrait dire qu'un intermittent n'a qu'à travailler 2 mois et demi à temps plein pour être indemnisé à taux plein durant les 8 mois restants. Donc, je pense que c'est vraiment la base de la façon dont est vue la fraude.
Une fraude éventuelle.
Une fraude éventuelle.
Mais ce n'est que du calcul.
Voilà, parce qu'après, il faut savoir, on va en parler justement de la façon dont il peut, de ce que nécessite comme travail et comme compétence et comme réseau de relations et comme aptitude sociale pour justement vivre de ce métier. Il est en général salarié, non pas sur des contrats à durée déterminée, plutôt de moins d'une semaine, voire le plus fréquemment d'un jour.
Et ça, c'est un avantage pour des employeurs.
Oui.
C'est une flexibilité. Parce qu'on n'a pas besoin de licencier un intermittent du spectacle, étant donné qu'il n'a que des CDD d'usage, et donc il suffit que le CDD soit terminé pour qu'il ne soit plus employé.
Voilà. Donc ce qu'on appelle le CDD d'usage, en fait, qui est spécifique à l'intermittence et qui permet, pour vous dire rapidement, de ne pas avoir de primes de précarité pour l'employeur et de ne pas verser de congés payés, puisque des congés payés sont directement versés à une caisse sociale qui s'en occupe chaque année. De verser à l'intermittent, ou pas d'ailleurs, en tout cas à la personne sous CDDU, ces 10% de congés payés. Ensuite, je dirais que la deuxième raison, c'est que ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est l'UNEDIC, donc c'est bien Pôle emploi en fait, qui gère ces indemnisations, et qu'il y a une dizaine d'annexes, et que toutes ces annexes sont déficitaires. Et donc nous, on va parler vraiment de l'annexe 8 et 10, puisqu'il s'agit de celle-ci.
L'annexe 10 qui correspond beaucoup plus aux musiciens,
oui,
on va dire.
C'est ça.
Et l'annexe 8
pour les techniciens.
Pour les techniciens.
Du spectacle et de l'audiovisuel. Voilà. Un employeur d'intermittent, donc, pour pouvoir faire ses CDDU, il faut donc avoir le bon code APE et une licence d'entrepreneur du spectacle. Voilà. La deuxième raison, je dirais que c'est que le calcul très concret de l'indemnisation est beaucoup plus favorable pour le chômeur, puisqu'il s'agit d'un chômeur, puisqu'il pointe chaque mois à Pôle emploi, que pour le régime général. C'est-à-dire que même les cotisations pour l'employeur sont plus importantes que celles du régime général, mais les cotisations sont, enfin, le calcul du pour le chômeur est plus important. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est annoncé comme chiffre, c'est qu'il y a 1 milliard de déficit, 1 milliard d'euros de déficit sur ces deux annexes. C'est-à-dire, le calcul est très simple, c'est-à-dire cotisations versées des employeurs pour ses salariés et cotisations perçues. Le problème principal, c'est que plus le secteur culturel est en expansion, plus il y a de salariés sous le régime CDDDU, plus le déficit augmente. Ce qui est en fait complètement évident, mais il se trouve qu'en ce moment, malgré la crise, en tout cas ces 10 dernières années, le secteur a été en expansion. Donc le déficit a pris de l'ampleur.
Juste, tu gardes en mémoire ce que tu as à dire, juste pour vous signaler. Donc, on parle des métiers de la culture. Les métiers du spectacle, ce sont aussi des métiers de la culture. Et on pourrait très bien faire une forme de comparaison. Les métiers de la culture, ce sont aussi les professions intellectuelles supérieures. C'est aussi les métiers de la culture. Eh bien, par exemple, entre 82 et 99, il y a eu, si on prend la structure des emplois par catégorie socio-professionnelle, il y a eu une évolution de 63% entre 82 et 99 sur cette augmentation de professions intellectuelles supérieures. On trouve aussi la même chose, mais dans les professions artistiques, avec une augmentation de 82 jusqu'à 99, une augmentation de 94% d'artistes professionnels de la musique et du chant. Donc en 82, entre 82 et 99. On trouve une augmentation de 121% pour les artistes de variété. Artistes de variété, c'est chanteurs, artistes de cirque, danseurs, musiciens de variété, marionnettistes, illusionnistes, imitateurs, cascadeurs, animateurs, mannequins, modèles, présentateurs, speakers. Et enfin, une augmentation de plus 244% concernant les comédiens et artistes dramatiques, danseurs et mimes. Donc on voit que malgré la période de crise avec laquelle on nous bassine, il y a une augmentation sur les métiers de la culture. Et là, j'ai fait exprès de vous dire que les métiers de la culture, c'est autant les professions intellectuelles que les professions artistiques. C'est une augmentation significative. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir à justement ce monde-là, on crée beaucoup plus d'emplois. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus de...
Plus le secteur salarié des CDDU, plus il y a de gens qui peuvent bénéficier de l'annexe 8 et 10, donc plus le trou de l'UNEDIC, en tout cas de ses annexes, augmente.
Donc les intermittents ne sont pas forcément... Enfin, les fraudeurs intermittents ne sont pas forcément des précaires.
Alors, il y a une forme de précarisation dans le sens où tous les 319 jours, la question de leur rémunération pour les 10 mois suivants est mise en cause, s'ils n'ont pas effectué le travail nécessaire. Le dernier argument, il y en a plein d'autres, mais que je voulais évoquer, sur la question de la fraude, ou en tout cas sur le démontage ou les attaques sur ce statut, c'est qu'en fait, il y a...
Ils viennent d'où ces attaques ?
Des économistes de droite, en général. De la Cour des comptes, en particulier cette année, puisque en fait en 2013, la convention va être renégociée.
Donc, encore une fois, depuis les années 80, ça n'arrête pas.
C'est
hein.
Ça, à chaque.
Tout, en général, la dernière, c'était 2003. Enfin, non, c'était. La plus importante, c'était 2003.
Oui, la réforme.
La réforme.
Le dernier argument, c'est de dire qu'il y a un bonus, non pas au travail, mais au chômage. Puisqu'en fait c'est un régime qui favorise les périodes de chômage. Une fois qu'on a ces 107 heures, on n'a plus rien à faire. Voilà. Il se trouve que, comme l'explique Minger notamment, on n'est pas du tout dans ces dispositions-là, et c'est pas du tout la façon dont est vécu ce statut par les artistes et par les techniciens. Voilà. Il y a aussi ces questions de plafond, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une indemnisation qui est non plafonnée ou qui est plafonnée très haut sur le maximum d'indemnité. Donc, quelqu'un qui touchait 3000 euros net, trois cachets, disons 1000 euros, pouvait avoir une indemnisation en plus, peut avoir une indemnisation en plus de 1000 euros de l'UNEDIC complémentaire, ce qui fait un complément de revenu non négligeable. Voilà, donc il y a ces questions de plafonnement. Juste pour vous dire peut-être, donc le chômeur, même s'il est intermittent, il préfère s'appeler intermittent, mais il est chômeur, donc il va émarger tous les mois à Pôle emploi, s'il ne le fait pas, donc tout au long de sa vie. Donc quand tu parlais du fait qu'ils sont inscrits depuis très longtemps, a priori s'ils sont inscrits depuis très longtemps au chômage, c'est parce qu'en fait ils sont en activité depuis très longtemps.
C'est ça.
Voilà. Et puis ce qui a vraiment changé en 2003, je pense qu'il est structurellement assez important, qui a mis dans le flou plein d'artistes et de techniciens, c'est la date anniversaire. C'est tout simple, mais avant, il y avait une date anniversaire tous les 12 mois. Donc le volume d'heures était à faire en 12 mois. Aujourd'hui, elle se décale tout le temps puisqu'on est sur un 319 jours.
Donc 10 mois.
Sur 10 mois, voilà. Ce qui fait que pour toutes ces professions qui, a priori, sont saisonnières, en tout cas périodiques, avec une impossibilité d'anticipation du travail, on peut se retrouver à avoir, par exemple, des gens qui travaillent énormément l'été, ce qui est le cas pour pas mal de techniciens et d'artistes du spectacle vivant. Moi, je travaille dans le spectacle vivant, donc tout ce qui est la partie audiovisuelle, je la maîtrise pas du tout. Voilà. Et on peut avoir, en fait, cette période-là de 10 mois et demi qui se décale, et puis ne plus avoir l'été. Donc à un moment donné, ça a aussi modifié les activités et, on va dire, augmenté les angoisses. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, un intermittent est plutôt du genre angoissé, quoi. Enfin, en tout cas, les petits intermittents. On ne parle pas des fraudeurs.
Comme les narcissiques.
Mais en tout cas, il y a cette inquiétude régulière et aussi, une inquiétude quand même assez permanente. Peut-être que je vous en parle techniquement.
Alors pendant que tu te déplaces, est-ce qu'on pourrait dire, alors les stars ont-elles droit à l'intermittence?
Oui, bien sûr.
Voilà, donc il y a un plafond aujourd'hui qui est de 7000 euros, ou en tout cas, plafond qui est de 7000 euros. Donc là, par exemple, sur un article qui date de 2004 sur les questions posées aux intermittents, les stars ont-elles droit statut d'intermittence? Eh bien, presque toutes les stars s'y inscrivent par crainte des lendemains qui déchantent, d'où leur solidarité affichée avec les anonymes. Dans les faits, les stars n'en profitent pas car leur rémunération importante repousse considérablement le début de l'indemnisation.
C'est ça.
Voilà. Bon.
Une dernière spécificité, mais qui est évidente, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il faut avoir plusieurs employeurs. Voilà, on est quand même en fait sur le cas vraiment d'artistes ou de techniciens qui sont multi-employeurs. Alors, ça va, il peut y avoir jusqu'à une vingtaine, enfin voilà, le nombre d'employeurs est limité, c'est vraiment leur situation de travail.
Et parmi tous les conflits sociaux, l'intermittence est quand même un conflit un petit peu spécial. Enfin, comme c'est une situation qui est unique au monde, eh bien forcément, on peut dire que ses propriétés sont uniques au monde aussi, ses spécificités. Et particulièrement, c'est dans le monde du travail, c'est la première fois qu'on a affaire à des employeurs qui s'entendent avec des employés. Voilà, il faut s'imaginer qu'ils s'entendent. C'est-à-dire qu'ils ont intérêt, l'un et l'autre, en fait, sont vraiment dans une situation presque de mutualisme au sens biologique. C'est-à-dire qu'on a besoin des uns, on a besoin des autres.
C'est-à-dire que, clairement, la négociation aussi, elle est faite avec le volume d'heures proposé à l'intermittent. L'employeur salarie, je sais pas moi, 200 heures sur une période courte va donner un vrai pouvoir à cet employeur et va permettre peut-être de moins payer des répétitions. Enfin, effectivement, il y a toute cette histoire de jonglage entre des périodes travaillées, déclarées, qu'est-ce que ça représente proportionnellement à ces fameuses 507 heures. Il y a cette question-là, une forme de pression aussi exercée par les employeurs.
Est-ce que tu appelais tout à l'heure capacité sociale? C'est aussi une capacité à connaître le système. C'est une capacité, c'est le fameux « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais en même temps, quand on est intermittent, Souvent, Sarah, alors qu'elle n'est pas conseil intermittent, normalement, le conseil intermittent, ça devrait être Pôle emploi. Eh bien, Sarah rend service très régulièrement et fait, on va dire, standard sur des intermittents qui ne comprennent pas tout. Tu pourras en parler aussi en tant qu'expérience, on va dire.
Je pense qu'il y a une vraie bascule depuis 2003 ou 2007, en fonction des expériences, mais en tout cas, Pôle emploi n'est plus une ressource. N'est plus une ressource et n'est plus un lieu d'information, mais plutôt un lieu de défiance, d'inquiétude, de savoir si le dossier va être bien traité, de savoir si la personne va être compétente sur l'annexe spécifique. Et ça, ça crispe encore plus la situation. Voilà.
Déjà que la précarité n'incite pas à avoir des rapports avec l'administration, hein, tout ce qui est papier, paperasse, ce qu'on appelle communément paperasse, eh bien ça rend encore plus la relation difficile. Souvent décourageante. Enfin, en tout cas, l'intermittent est souvent, dans sa précarité, découragé.
Alors, voilà, juste concrètement, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour un intermittent ? Donc, il a cette période de 319 jours pour les artistes et 304 jours pour les techniciens. Allez savoir pourquoi il y a cette différence. Je n'en sais rien. Et la nécessité de faire 507 heures, au minimum, bien sûr, de travail sur cette période. Ce qui se passe, c'est que mensuellement, il va déclarer sa situation à Pôle emploi. Donc, imaginons qu'il ait effectué 24 heures de travail dans le mois. Donc, on va dire que c'est une rémunération forfaitaire, donc deux cachets, deux prestations, deux cachets. Pour savoir combien il va toucher de Pôle emploi, Pôle emploi va effectuer ce calcul. Il va faire le nombre d'heures travaillées divisé par 10, multiplié par 1,3. Ce qui va nous donner le nombre de jours non indemnisés. Ok ? En l'occurrence, là, on va dire qu'il y a donc deux jours non indemnisés. À la base de ces 319 jours, il a un pot, une grande marmite, dans lequel il a 243 jours d'indemnité. Donc chaque mois, il va perdre le nombre de jours indemnisés du mois. C'est-à-dire, sur un mois de 31 jours, ok, il fait 24 heures divisé par 10 multiplié par 1,3. On va estimer que c'est l'équivalent de 2 jours non indemnisés. Donc il va percevoir 29 jours d'indemnité. Donc du pot des 243 jours, il lui en reste plus que 243 moins 29.
Donc c'est un calcul permanent.
Voilà. Ok. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce manque de date anniversaire, c'est qu'il va y avoir parfois un décalage du nombre de jours indemnisés avec ses 319 jours. Si l'intermittent a très peu travaillé, il ne va pas aller au bout de ses 319 jours et il n'aura plus d'indemnité, ce qui n'empêchera pas de travailler. Et il a intérêt à retravailler parce que sinon, il ne pourra pas renouveler son statut. A l'inverse, s'il travaille énormément durant cette période, il va arriver au bout des 319 jours et il aura encore des indemnités. Les indemnités vont continuer à lui être versées. Le souci qu'il va y avoir, c'est que, imaginons qu'il mette encore 60 jours, donc 2 mois, avant d'avoir épuisé son quota de 243 jours. Pôle emploi va prendre son dernier contrat de travail et va remonter à 319 jours avant pour vérifier que la période des 500, que les 507 heures minimum déclarées en CDDU ont été effectués. Donc il arrive régulièrement qu'en fait, si ces 319 jours
se décalent à chaque fois,
il y a toute une période de travail qui ne soit pas prise en compte. Ok ? Ce qui veut dire qu'il y a plutôt intérêt à maîtriser Excel, voire une calculatrice, et que tout est un site au calcul en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un site au calcul. C'est-à-dire que même si on travaille beaucoup, il vaut mieux pouvoir maîtriser ce statut. Et c'est à contrario de son but initial il y a quelques temps maintenant, qui était d'offrir une sécurité, on rentre quand même dans une forme de calcul contraint et angoissant. Voilà. Moi, en tant qu'administratrice, je connais les dates de fin de statut parce qu'il y a une forme d'angoisse. D'un coup, la
pas pris sa calculatrice pendant quelques mois. Il se rend compte qu'il lui en manque. Et on a des coups de fil où il faut absolument que j'ai du boulot en ce moment. Donc la crispation de l'intermittence, elle est très visible en tant qu'administrateur. Quand on est un peu au courant, en général, parfois trop tard aussi. Et ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est profession libérale, en fait. Et c'est des rapports souvent qui ressemblent un peu à des graphistes qui veulent, par exemple, je prends l'exemple du graphiste parce que c'est un exemple quotidien, qui pendant un moment, parce qu'on n'a pas trop de sous, veulent bien nous faire une déclinaison complémentaire, et d'un coup, s'énerve. Parce qu'il y a cette crispation de la fin de mois, en fait, de tout simplement, en ce moment, j'ai pas de boulot, donc je peux pas t'aider. Donc on a un rapport très ambivalent.
Alors pas que fin de mois.
Fin de
voilà, fin c'est ça. Fin de période. Voilà. Oui, c'est ça.
Et on a un rapport, du coup, assez ambivalent, je pense que c'est le propos de l'intervention de ce soir, avec l'engagement artistique, ou en tout cas la fidélisation d'un artiste à un projet artistique. Parce qu'on a ces 319 jours et ces 507 heures qui sont comme un fantôme qui plane au-dessus d'une activité qui est variable, en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus, peut-être ? Et après, on enchaîne. Plus fort, s'il vous plaît.
Les professions les plus touchées par les intermittences sont les musiciens.
Donc, les plus touchées par quoi ?
Par l'intermittence.
La question de la représentation, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que le métier le plus courant sur ces annexes, c'est ça la question ?
J'ai des réponses.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la profession la plus représentée. Alors, je ne dirais qu'en fait, ce sont des professions. Je dirais que c'est des secteurs d'activité.
Voilà.
Des secteurs. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez les grosses productions audiovisuelles et vous avez le cinéma indépendant. Vous avez les compagnies conventionnées dans le spectacle vivant ou des...
Compagnies de danse, comédiens.
Par exemple, ou des CDN, enfin, des grosses structures et les petites. Et en fait, il y a aussi des petits intermittents et la rémunération, je crois qu'elle varie de 1 à 22 d'indemnisation. Et la moyenne, elle est à autour de 55 euros par jour. D'indemnisation. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper difficile à appréhender, c'est qu'on a, même si Depardieu, c'est d'actualité, pouvait bénéficier de ce régime, on a des réalités vraiment très très contrastées dans ce secteur.
Voilà.
Voilà. Et je pense qu'elles sont aussi contrastées que le garagiste et Renault, quoi.
Et le
garagiste complètement indépendant et la grosse machine de production automobile. Et on est vraiment sur ces réalités-là dans le secteur. Alors, il y a aussi les parcs d'attractions qui embauchent des intermittents. Disneyland Paris est un énorme pourvoyeur d'intermittents. Enfin, on a vraiment des réalités très différentes. Et l'artiste lui-même va souvent avoir ses projets, alors ça c'est une expression très courante dans le secteur, ses projets de cœur. Donc ces projets où il estime avoir une âme artistique, sa patte, ou en tout cas avoir fait ce métier pour faire ces projets, et puis des projets alimentaires et des employeurs alimentaires. Voilà. Et souvent, il y a quand même une grosse partie du travail, parce que à la base, pour les artistes, on estime qu'un musicien va travailler son instrument tous les jours, et que il faut qu'il soit en fait disponible à l'emploi pour l'employeur qu'il contacte. Et c'est ça qui est censé être rémunéré et favorisé, c'est tout ce travail d'entretien personnel du danseur, par exemple. Il va danser tous les jours, même s'il a des périodes de chômage.
C'est ça. C'est
voilà.
Ça.
Il est censé être fait pour ça.
Ça, ce sont des dimensions, effectivement, qu'on ne voit pas quand on est public. On considère plutôt le résultat du spectacle lui-même ou le résultat d'un concert, mais on ne s'imagine pas que l'intermittence peut justement... valoriser, ou en tout cas indemniser ces périodes de répétition, ces périodes de travail. Pas de travail avec un employeur, mais de travail personnel, on va dire, ou en groupe.
Et à la base, ce statut a été créé pour trouver des techniciens qualifiés dans le cinéma. En fait, le cinéma avait un vrai souci, c'est-à-dire qu'il y avait des productions, mais qu'à un moment donné, des techniciens qualifiés n'étaient pas disponibles. La main-d'œuvre n'était pas disponible parce qu'il y avait des périodes de chômage trop importantes et donc il était vraiment difficile d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Et donc c'était pour favoriser une forme de professionnalisation et d'excellence dans ces métiers-là. Tout change avec la crise et avec ce côté exponentiel du secteur. Voilà. Et alors, sur le
64,
déficit...
L'annexe 8, à partir de 64. Et l'annexe 10, à partir de 69.
Le déficit du secteur, en fait, moi, j'ai pas trouvé les chiffres. Donc, on prend les cotisations pour les CDDU et on regarde qu'est-ce qui est cotisé par les employeurs et les salariés, donc la part brute et la part employeur, et les indemnisations versées. A priori, on ne peut pas calculer comme ça. Il faudrait prendre l'ensemble des cotisations du secteur culturel à l'UNEDIC et voir à la fois les chômeurs du secteur culturel permanent, en dehors de ces annexes 8 et 10, et le cumuler au déficit de l'annexe 8 et 10.
C'est-à-dire une solidarité interprofessionnelle.
C'est ça. Alors non, on n'est pas sur la solidarité interprofessionnelle, on est juste sur un calcul de déficit sectoriel. Mais on ne peut pas accuser cette annexe 8 et 10 spécifiquement d'être déficitaire uniquement par rapport aux cotisations de ces annexes 8 et 10, en fait. La solidarité interprofessionnelle, elle se passe au sein de l'UNEDIC, puisque l'UNEDIC, c'est tous les employeurs du privé. Alors, ce qu'on appelle du privé, c'est-à-dire contrairement au public, donc contrairement aux collectivités territoriales, à l'État. Et jusqu'aux années 2000, l'UNEDIC était
bénéficiaire.
Donc, l'UNEDIC, mais les annexes 8 et 10, c'était toujours déficitaire. Et l'UNEDIC est déficitaire depuis les années 2000. Et quand on voit... il n'y a aucune corrélation des chiffres entre le déficit ou le bénéfice de l'UNEDIC et le déficit des annexes 8 et 10. Elle n'existe pas, cette corrélation, de manière mathématique. Alors on prend le déficit 8 et 10 depuis les 20 dernières années et les résultats de l'UNEDIC, il n'y a aucune corrélation avec en disant « oui, il y a 80% de corrélation, c'est tout à fait ça, on a pointé du doigt le problème ». Il n'empêche qu'en chiffre absolu, il reste 1 milliard. Voilà. Avec toutes les précautions que j'ai apportées à ce chiffre.
Donc si on résume, secteur d'activité, grande disparité entre secteurs d'activité ou grande disparité à l'intérieur de chaque secteur d'activité.
Les deux.
Mmh. Voilà. C'est-à-dire il y a un cumul véritablement. Il y a des petits musiciens et il y a, on va dire, enfin, bien évidemment, vous avez compris ce que je veux dire par petit. Hein, il y a des petits musiciens, c'est-à-dire dans une précarité ou même il va y avoir beaucoup de mal à terminer
son boucler.
Merci, c'est ça, à boucler son statut. Et de l'autre côté, dans le même secteur d'activité, beaucoup moins de problèmes pour le faire, beaucoup plus facile. Voilà.
Sachant que dans la vie de l'intermittent, il y a des périodes aussi qui sont plus simples que d'autres. On n'est pas que sur une situation figée de tout va bien ou tout va pas bien dans une carrière d'artiste ou de technicien. Les 20, 30 ou 40 années qui peuvent exister sont hyper variables quoi, en termes d'activité.
Peut-être d'autres questions ou remarques, expériences.
Si les intermittents sont en permanence en relation avec Pôle emploi, vous pointez régulièrement, est-ce qu'ils rentrent dans les statistiques du chômage ?
Oui.
Bien sûr.
Tout à fait. Alors, il faut savoir, il n'y a pas de chiffres réels, les chiffres entre l'UNEDIC et d'autres secteurs sont hyper variables. Mais a priori, il y a 100 000 intermittents pour 204 000 cotisants. C'est-à-dire qu'a priori, il y a 204 000 cotisants sur la dernière année, sur 2011, il me semble. Donc, de gens qui ont été embauchés en CDDU, et il y en a 100 000 qui bénéficient des annexes 8 et 10. Voilà, pour vous donner un peu le chiffre. Après, voilà.
Oui, après.
Non, c'est bon.
D'accord. Bien, je vais continuer. Alors, je suis intermittent du spectacle. Je suis musicien. Je suis artiste. Bien. Autant il peut paraître naturel aujourd'hui, et ce depuis une dizaine d'années, de devenir intermittent du spectacle lorsqu'on veut faire un métier de musicien, par exemple, autant il n'est pas si évident de trouver un musicien qui se revendique explicitement d'être un artiste. À part les lieux communs du monde social, c'est-à-dire c'est un artiste, on dit que c'est un artiste via la télévision aussi, où un musicien est considéré comme un artiste, je pense particulièrement aux participants à la Nouvelle Star, hein, ils sont considérés comme des artistes, on parle des artistes à la radio, à la télévision. Au bout du compte, les stars sont des artistes, les grands sportifs sont des artistes, les acteurs sont des artistes. Quand on constate ce phénomène, on peut comprendre que le musicien ordinaire, moi ou mes copains, on va dire, mes collègues, celui qui joue de la musique dans les bars ou sort un album par exemple assez frais et se bat pour obtenir quelques dates de concert avec de vraies conditions de sonorisation, eh bien, ne se sentent pas vraiment concernés vu l'appellation qu'on donne des artistes. Ils ne se sentent véritablement pas concernés par le fait d'être artiste. J'ai même constaté qu'une majorité de musiciens parlent rarement d'art ou se qualifient d'artiste. Il y aurait presque une gêne à le faire. Ce qui ne l'empêche pas de croire secrètement à une forme de succès, ce qui ne l'empêche pas aussi de compter sur la chance ou le hasard pour réussir, ce sont des termes, merci. Réussir, percer, et aussi s'en sortir. Il y a aussi le terme s'en sortir qui est important. Le monde de la musique ordinaire, notre monde, celui de la Croix-Rousse, celui de Lyon, dans notre ville, vit sur des fantasmes qui ne sont malheureusement pas moins débiles que ceux du showbiz. Et quel est le musicien qui dirait non à la signature d'une major? Une major vous propose de signer, d'avoir un contrat et d'être distribué, d'avoir une visibilité. Quel est le musicien qui dirait non à la signature d'une major? Ce soir donc, on parle du musicien intermittent. Et on va y rajouter un intermittent du spectacle et on va rajouter d'artistes. On essaye de poser des questions que le musicien intermittent ordinaire n'a pas souvent l'occasion de se poser lui-même. Peut-être trop préoccupé à courir après les cachets, selon la formule, et à tout ce que signifie aussi cette formule en tant qu'action. Courir après les cachets, c'est avoir des réseaux de relations. C'est aussi un style de vie ou des styles de vie. Ce sont des problèmes rencontrés, ce sont des situations précaires. C'est bouché, on sait que c'est bouché, le monde de la musique est bouché, mais on tente quand même le coup, le pari sur une vie, on verra bien. De 82 à 89, je vous l'ai dit, les actifs professionnels de la musique et du chant ont augmenté de 94%, ceux de la variété de 121%, les danseurs et comédiens de 244%. Pourquoi, alors que les choses sont bouchées, que les choses paraissent bouchées, on va quand même tenter sa chance? Tout va mal, ou en tout cas, ça ne va pas très bien, mais on continue. Certains même changent de métier pour faire une profession artistique. Donc il est vraiment temps de poser des questions. Poser des questions à ce que l'on fabrique et au monde dans lequel on fabrique. Pour comprendre ce qui pousse les individus, de plus en plus nombreux, à s'en remettre à la bonne étoile magique des professions artistiques. Et il y a quelque chose de magique dans ces professions artistiques. Regardez comment nous considère le public. Hein? Le public trouve qu'on est libre. On joue d'un instrument de musique, c'est fabuleux. On peut être sur scène, on peut se montrer. On est dans l'espace public, on est dans la représentation publique. On est aussi, comme dirait Lâche, dans la société du spectacle. Et qui dit la société du spectacle, dit aussi la représentation du moi. Alors il fallait bien que quelqu'un vende la mèche, c'est moi, c'est-à-dire que même si je suis intermittent du spectacle, je le suis depuis peu, je me considère comme étant artiste. Et en fait, je questionne, je pose des questions, c'est-à-dire que je me tourne vers les mondes aussi qui produisent les bonnes questions et les savoirs critiques qui vont avec. Ces mondes, ce sont les sciences humaines, et sociale, et particulièrement la sociologie critique. On veut dire par sociologie critique l'opération de dévoilement des illusions des acteurs, acteurs dans le sens acteur social, selon la proposition de Boltanski. Ce que je voudrais soulever ici, c'est que malgré l'hétérogénéité, la mobilité l'hyper-flexibilité de l'intermittent du spectacle, particularité dans le monde du travail de notre société, ce sont toutes ces particularités de l'intermittent du spectacle. Donc c'est très rare, hein, à part les intérimaires, d'avoir une hétérogénéité, une mobilité et une hyper-flexibilité. L'intermittent du spectacle, d'ailleurs, entre parenthèses, a besoin de cette hyper-flexibilité.
Et oui. Même pour continuer là-dessus, le MEDEF trouverait très intéressant d'étendre ce système. Parce qu'il est quand même génial pour l'employeur. Enfin, c'est-à-dire qu'il trouvait que c'était un modèle de flexibilité, puisque, en fait, l'assurance du niveau de vie n'est pas gérée par l'employeur du tout, mais par l'assurance chômage, par Pôle emploi.
Donc l'État-providence.
Voilà.
On pourrait dire ça.
Donc c'est une proposition très libérale. Et la dernière chose que je voulais dire, le calcul de l'indemnisation n'est absolument pas égalitaire, équitable. Plus on gagne de l'argent, plus les cachets nets sont élevés, plus l'indemnisation est élevée. On n'est absolument pas sur un système qui pourrait redistribuer, puisque c'est quand même l'UNEDIC qui l'a conçu, en tout cas qui a été créé par des partenaires sociaux.
Malgré cette hétérogénéité, cette mobilité, cette hyperflexibilité que je trouve, peut-être parce que j'étais jeune dans les années 80, plutôt quelque chose de formidable. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas dans un domaine de spécialisation, on est dans un domaine d'hyperflexibilité, de mobilité. On parlait de mobilité sociale.
Et alors, pour revenir, excuse-moi, sur l'hyperflexibilité et l'hypermobilité, autant l'UNEDIC est particulièrement déficitaire, mais si on va du côté de la sécurité sociale et des autres caisses, y a extrêmement peu d'arrêts maladie parmi les intermittents. Toutes les autres caisses en fait sont plutôt ne sont beaucoup moins utilisées qu'ailleurs en fait. Évidemment, quand on est lié à un employeur pour un ou deux contrats, au troisième on a la grippe, mais on y va quand même. Enfin voilà, très concrètement. Et en plus, Pôle emploi ne favorise pas du tout ni les congés de maternité d'ailleurs, ni les arrêts maladie. Voilà, être en arrêt maladie long, Richard a fait une rupture du tendon d'Achille il y a un an, et absolument pas déclaré. Il a fait autrement. Parce que trop de contraintes et trop de complexité et trop d'angoisse et un taux qui dégringole et voilà. Enfin, voilà.
Non, j'ai pas été angoissé, mais.
Oui. Mais il valait mieux faire autrement, quoi. En tout cas, qu'appeler à ce qui serait tout à fait logique sur un cas comme ça, d'être en arrêt maladie.
Bah, disons que je me suis payé le luxe de me casser le tendon d'Achille pendant les vacances. Donc, c'est très très bien vu. En fait, l'intermittent précaire est en fait un animal. Hein, tout fonctionne à l'intuition. Il n'est jamais malade. Donc la précarité, ben, regarde. Hein, la précarité dans les pays en voie de développement, c'est ceux qui ont le plus une démographie galopante. Donc en fait, l'intermittent est vraiment quelqu'un de costaud. Il se doit d'être costaud. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'esprit aussi. C'est que quand on ne doit pas être malade, je pense qu'on ne l'est pas. Mais ça, c'est un autre débat. Hein?
Enfin, mais au même titre que tous les entrepreneurs.
Ou une autre intervention. Au même titre que tous les autres entrepreneurs.
Donc les chefs d'entreprise, hein, on est dans cette situation.
Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du stress et qu'il y a d'autres choses qui se développent dans le cerveau. Voilà. Donc, malgré cette hétérogénéité, tu me dis si tu me coupes là à ce moment-là, une mobilité hein, et une hyperflexibilité, on pourrait s'attendre à des choses plutôt positives. En tout cas, je ne les vois pas comme étant négatives. Eh bien, malgré cette mobilité aussi dans des secteurs divers et la pluralité des projets auxquels participe l'intermittent, le musicien reste un acteur bloqué et spécialisé qui se soucie peu des conceptualisations artistiques d'une tradition critique. Posture beaucoup plus admise dans les mondes de la peinture ou du théâtre ou encore de la photographie. C'est-à-dire qu'il y a historiquement une tradition critique dans les mondes de la peinture, de la littérature, du théâtre ou encore de la photographie, mais très peu dans la musique. Il faudrait sans doute se tourner sur la place et le rôle que l'on accorde aujourd'hui à la musique. La musique, on peut en faire n'importe quoi, on l'écoute n'importe où. La musique, on pourrait dire qu'elle a loupé son rendez-vous avec la critique. Elle peut accompagner les indignés, mais elle peut aussi accompagner un meeting du Front National. Une même musique. C'est tout à fait possible. Le grand malheur de la musique, et c'est un musicien qui vous le dit, mais je vends la mèche, c'est que c'est un art qui ne dit rien et n'a rien à dire. Pas de chance pour un musicien. Et on rajoute à ça un musicien qui se dit libre. Un musicien est libre. Il est vu comme étant libre. Dégagé de toute contrainte, en tout cas. On le voit libre. Et quelque part, il l'est assurément si on compare sa pratique à celle d'un ouvrier du bâtiment, qui a l'air beaucoup plus enchaîné. Le temps libre est rare. C'est un luxe. Et si le musicien est libre de fabriquer et de créer, pourquoi ne pas utiliser ce temps à produire de la critique? C'est toute la question sur le narcissisme du musicien à la recherche de son bien-être. Ce musicien, pris dans son monde de concurrence, qu'il nie comme un monde de concurrence, c'est cool, c'est fun, doit se placer, doit évoluer, doit être reconnu. Il y a une motivation intrinsèque à être musicien. Par exemple, c'est une activité qui permet un accomplissement, qui permet d'être gratifié, car dépourvu d'un contrôle externe. On peut faire de la musique aujourd'hui, aller dans un bar sans présenter une carte de métier, on appelle ça une carte professionnelle. Sans présenter une carte professionnelle, on peut jouer, on peut être considéré comme un artiste ou être vu comme un artiste. Il n'y a pas de contrôle.
Il n'y a pas besoin de diplôme.
Et il n'y a pas besoin de diplôme. Donc, il ignore aussi, ça c'est selon Minger, l'individu ignore s'il détient des qualités ou pas, puisqu'il n'y a pas de contrôle externe. Il ne sait pas s'il a des qualités ou pas. Il est obligé de le décider par lui-même qu'il a des qualités. Elles ne sont pas jugées ou elles ne sont pas contrôlées, on va dire.
Bah, surtout en musique actuelle.
Alors, les musiques actuelles, ce sont, pour donner une autre définition que ce qu'on peut donner sur les musiques actuelles, je dirais que ce sont les musiques filles ou héritières, alors que c'est un héritage un peu spécial, mais filles ou héritières de l'industrie musicale des années 60 et 70, avec les musiques électriques. Tout ce qui concerne le rock, tout ce qui concerne la chanson, tout ce qui concerne toutes les musiques électriques, musique du monde, etc. Et si je dis fille de l'industrie culturelle, de l'industrie du disque, de l'industrie de cette musique de variété, c'est pas pour rien, c'est parce que le mouvement n'est pas aussi historique que dans le jazz ou que dans la musique classique. C'est pour ça que les musiques actuelles ont été les dernières à arriver dans les conservatoires, à être enseignées. Elles sont arrivées les dernières.
Officiellement, le jazz fait partie des musiques actuelles.
Maintenant, le jazz fait partie des musiques actuelles. Mais il est arrivé au conservatoire, il a réussi à arriver au conservatoire bien avant. Ce qui fait qu'il a une construction beaucoup plus sanctionnelle, beaucoup plus de sanctions, qui ressemble étrangement dans l'enseignement à l'exigence ou à l'excellence qu'on trouve dans les musiques lyriques ou classiques. Donc, le fait que cet individu, comme dit Minger, qui ignore s'il détient des qualités nécessaires pour réussir, peut conduire l'individu à surestimer ses chances de succès. Car la compétition dans le travail de création se déroule sous le principe de l'originalité et de l'innovation. Donc sous couvert d'originalité et d'innovation, on peut dire que le musicien peut faire ce qu'il veut.
D'ailleurs, il se lance en général.
Il se lance. Donc la compétition, elle doit demeurer suffisamment indirecte. Elle est là, mais elle est suffisamment indirecte pour équilibrer deux facteurs. La créativité, d'abord, qui est exténuée par les situations de contrôle externe de l'activité, par des buts assignés, mesurables et disciplinants. Donc la créativité, par ailleurs, comme elle est contrôlée, elle est exténuée, elle est fatiguée. Mais les gains, comme les revenus, les allocations d'attention, Minger appelle ça des allocations d'attention, et d'estime par autrui, comme la reconnaissance sociale, ont des propriétés informationnelles. Ce sont des informations, c'est-à-dire que ils renseignent l'individu sur la valeur de son activité, mais a posteriori. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va dire de ce qu'il fait, ce qu'on va penser de ce qu'il fait. Par exemple, un jury dans un concours qui va donner son avis, qui va donner des conseils. Eh bien, a posteriori, il va être renseigné sur la valeur de son activité, mais souvent en incapacité de produire lui-même sa propre analyse de son activité et de la placer dans le champ des musiques globalement. Bon, je parlais tout à l'heure de la position du temps libre. Bon, bien sûr, le temps libre ou le temps n'existe pas par lui-même. Il dépend des ressources et de l'environnement de lequel on est, hein, bien sûr, et de certaines conditions à créer dans ce temps libre. Pour un musicien, dans l'orientation d'un choix professionnel, la question est toujours de savoir comment vivre de la musique, faute de la faire vivre. Aujourd'hui, avec le système capitaliste et la figure d'un artiste créateur, autour de la notion d'innovation, les questions artistiques sont devenues des questions économiques qui soulèvent la notion de viabilité économique. Nous ne sommes plus dans une époque où l'aspect sacrificiel de l'art est la condition nécessaire et vertueuse contre le monde de l'argent, contre le monde des affaires. Et là, je vous renvoie à Flaubert, Manet, Baudelaire, Zola.
Et notamment pour défendre ce statut d'intermittent et la nécessité d'avoir des artistes qui soient présents dans la société, il y a aussi un discours qui est assez courant dans les coordinations d'intermittents et les collectifs, c'est de dire l'art produit de la richesse. Vous avez bien vu à Avignon, quand on s'est arrêté, les hôteliers, les restaurateurs ont perdu de l'argent. Quand vous investissez dans la culture, ça fait marcher. Voilà.
Donc l'art et la culture.
Voilà. Mais donc on voit bien un basculement du discours qui n'est plus une justification de la culture et de l'art pour ce qu'il doit être dans une société, un idéal de société, mais aussi une justification économique de son existence. Et c'est là où la question de l'événementiel, de l'entertainment, ou en tout cas du loisir aussi, c'est quand même des questions qui sont assez liées à aujourd'hui et au discours qui entoure la pratique culturelle, artistique et de loisir, je dirais.
Et aux valorisations des grosses manifestations. C'est que plus la manifestation est importante et visible, et plus elle est valorisée. Un petit extrait pour rigoler ou sourire. De Flaubert qui parle de l'art. Nous sommes des ouvriers de luxe, or personne n'est assez riche pour nous payer. Quand on veut gagner de l'argent avec sa plume, il faut faire du journalisme, du feuilleton ou du théâtre. La Bovary m'a rapporté 300 francs que j'ai payés et je n'en toucherai jamais un centime. J'arrive actuellement à pouvoir payer mon papier, mais non les courses, les voyages et les livres que mon travail me demande. Il n'y avait pas l'assurance chômage. Et au fond, je trouve cela bien, ou je fais semblant de le trouver bien, car je ne vois pas en fin de compte le rapport qu'il y a entre une pièce de 5 francs et une idée. Il faut aimer l'art pour lui-même, l'art pour l'art lui-même. Autrement, le moindre métier vaut mieux. Donc on voit dans cette attitude de désintéressement une posture qui est quand même assez rare aujourd'hui.
Ouais, de toute façon, il n'aurait pas pu émerger un intermittent s'il était auteur.
Si, si. En tout cas, dans les professions artistiques, ils existent. Hein. Enfin, il y a une évolution beaucoup moins importante, par contre. Hein. Donc il y a une précarisation aussi. Je vous renvoie à la condition de la vie littéraire de Bernard Lahire aussi, qui est une grosse étude. Je vous la mettrai dans les bibliographies pour comprendre un petit peu comment vivent aussi les écrivains et s'ils se considèrent eux-mêmes comme écrivains. Parce qu'il y a des questionnaires, voilà, des entretiens qui ont été faits par Bernard Lahire, qui parlent un peu de comment se considèrent aussi les écrivains. Alors, les écrivains, pas forcément ceux qui sont connus. Hein.
Mais en tout cas, ce qui est très parallèle avec le texte de Flaubert, et ce qui est assez drôle, effectivement, je trouve, c'est la notion de la pluriactivité, de gagner de l'argent, non pas sur son projet de cœur, ou en tout cas sur son œuvre, mais bien sur un travail alimentaire. Certes, où il exerce son art, mais sur le feuilleton et le journalisme qu'il évoque. Et c'est quand même des choses assez intéressantes.
Il attaque effectivement le journalisme. Il attaque les phénomènes de mode de l'époque. Hein.
Bah, les feuilletons.
C'est-à-dire les feuilles. Voilà. C'est-à-dire voilà. Aujourd'hui, pour gagner de l'argent avec sa plume, il faut faire du journalisme, du feuilleton ou du théâtre. Bon.
C'est pas gentil pour le théâtre.
Mais ça dépend quel théâtre aussi. Enfin, le théâtre a bien évolué après le 19e siècle. Hein. On n'est pas obligé de faire du labiche. Hein. On peut faire du fan aussi. Alors lui, c'était le chasseur de labiche, peut-être. Je ne sais pas. Donc, est-ce que cela signifie que les questions autour de l'éthique et de l'esthétique de l'œuvre, de l'aspect critique de l'œuvre, n'est plus possible? Peut-être. Beaucoup moins développé, comme je vous le disais en tout cas, chez les musiciens que les autres artistes. Mais ne nous leurrons pas, ce monde-là, de l'art et de la culture, est bien, comme tu l'as précisé avec un exemple, en tout cas, comme tu l'as illustré avec un exemple, est bien le monde de l'argent, et quelque part, l'intermittent, ou en tout cas le musicien intermittent, pourrait, grâce à ce travail qu'il pourrait faire dans ces moments de travail, ne pas travailler que son instrument, on va dire, musical, mais pourrait aussi travailler d'autres choses, comme par exemple la question de la musique, ou la musique que je fabrique, pourrait-elle être une machine à faire penser, comme certains intellectuels. Donc si l'art veut encore jouer ce rôle-là de machine à faire penser, comment un musicien intermittent du spectacle peut-il faire vivre un art critique? Comment, alors que le statut d'intermittent relève d'une situation individuelle, faire vivre son art en tant que force collective?
Une des spécificités du musicien aussi, c'est qu'il a besoin des autres. Le solo n'est pas la forme la plus répandue en musique, quand même. C'est beaucoup plus le cas pour les comédiens, pour les danseurs, où ce sont des formes possibles. Et il a vraiment une contrainte forte, c'est qu'il doit monter un groupe, en tout cas, enfin, être sur une pratique collective.
À partir d'un duo. Alors, quand j'entends pratique collective, je veux bien sûr dire, pas seulement créer un groupe, ou faire un regroupement, mais aussi une pratique collective de réflexion, par exemple. Voilà. Lorsqu'un individu veut mener, par exemple, un projet collectif, tout le monde s'organise autour, tous les musiciens s'organisent autour de la forme musicale, puisque chacun investit sa compétence instrumentale. Tous les musiciens savent plus ou moins faire ça. Mais cet individu qui veut mener un projet collectif, donc ça renvoie aussi à la personne de leader, etc., j'ai pas le temps de développer, mais tout ça c'est quand même important, il doit aussi et surtout organiser rationnellement et administrativement, un groupe qui tourne par exemple, ou des répétitions régulières, cette énergie collective, donc rationnellement et administrativement, où chaque membre est censé manifester un intérêt exclusif au projet, une affection impliquant presque logiquement une forme de fidélisation, le fameux groupe de cœur chez les artistes. Mais ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple de manifester un intérêt exclusif à un projet dans lequel on est invité et dans lequel on ne va pas, on va dire, valoriser sa propre pratique. Donc il y a la notion aussi de service, il y a la notion de se mettre au service d'eux, il y a la notion aussi de reconnaître des formes de hiérarchisation, la notion aussi d'accepter qu'être libre, c'est peut-être faire partie de forces collectives. En tout cas, l'histoire de l'art, l'histoire de la culture a toujours montré que les révolutions ont toujours été des forces collectives. Flaubert, avec Baudelaire, avec Maupassant, avec Zola, par la suite, c'est-à-dire des mouvements littéraires ou des mouvements artistiques, le surréalisme, l'impressionnisme, en peinture, voilà, tous ces mouvements ont été des forces collectives, même si chacun y a gardé sa particularité. Apparemment, ça a l'air d'être plus compliqué dans un groupe de musique.
Quand tu parles d'organisation rationnelle et administrative, enfin, il y a tout de suite un exemple concret, ou en tout cas quotidien, qui me vient par rapport à mon métier, c'est la fameuse question des options et des dates. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un concert est trouvé avec une formation, une production qui a été produite, enfin, tous les professionnels du secteur connaissent bien ce moment-là, c'est-à-dire qu'il va falloir vérifier les dates. Et donc là, il y a un coup de fil qui est passé à chacun des musiciens, ou un mail qui est envoyé, disant « j'ai une option », parce qu'avant de confirmer la date au client, en tout cas au programmateur, à la salle, il faut bien vérifier la disponibilité. Et ce moment-là, c'est un moment clé qui, je trouve, rassemble toutes les tensions de cette intermittence, de ce projet de cœur. Est-ce qu'ils vont être disponibles? Est-ce qu'ils ont d'autres options posées par d'autres employeurs potentiels? Si c'est le cas, est-ce que c'est la course à la rapidité de la confirmation de l'option, parce que beaucoup fonctionnent avec le premier qui confirme à la date.
Premier qui dit qui est.
Est-ce que...
Mais pas que, parce que s'il y a un groupe de cœur par la suite...
C'est ça. Est-ce que le projet de cœur, même s'il avait une option, est-ce qu'il va pouvoir se faire remplacer sur un autre répertoire sans que ça mette en jeu sa position et confirmer sa présence sur les répertoires qu'on lui propose à lui, sur le spectacle qu'on propose nous? Est-ce qu'il va faire l'inverse? Est-ce qu'il va demander à ce qu'il soit remplacé sur le spectacle qu'on lui propose et aller ailleurs? Donc c'est là en fait où vraiment la question du groupe de cœur, de la rémunération, du nombre de dates proposées, etc. se cristallise sur la question de l'agenda.
Et par extension, excuse-moi, par extension, pas que, c'est aussi là où se pose la question de l'organisation rationnelle et administrative, qu'est-ce qu'elle peut garantir à ce musicien à qui on propose de faire partie du groupe. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut lui garantir comme... Je ne sais pas, je donne des exemples. Qu'est-ce qu'on peut lui garantir
Comme rémunération.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... si on arrive à cumuler, c'est-à-dire des exigences ou en tout cas des volontés, on va dire, critiques... De possibilités de dévoilement, en tout cas de machines à faire penser, le public aussi en musique. Si on arrive à cumuler ça, plus une organisation administrative qui garantit un salaire, ça ne veut pas dire que c'est tout bénef en fait. Parce qu'il ne faut pas croire que quand on propose un projet critique bien payé, des musiciens vont venir. Vous comprenez?
Après...
C'est pas si simple. Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des catégories de perception de cette réception de la critique. Et elle n'existe pas forcément. Parce que souvent, ce qui est vu, j'en avais traité par ailleurs, souvent ce qui est vu quand on parle d'artistes critiques en musique, de suite c'est le chant, c'est le chanteur, chanson engagée. Ça c'est la forme, bien sûr que ça existe, bien évidemment. Mais on va dire que ça, c'est la version que je l'ai appelée comme ça, la version de l'art engagé classique, celui qui est considéré comme classique, la chanson engagée. Si on vous dit musique engagée, vous allez penser à quoi? Pas évident. Ah bon? Oui. Il y a des Noirs en France qui jouent du jazz? Je suis provocateur, je fais exprès.
Non, le jazz,
c'est les Noirs. C'est les Noirs et les Blancs américains. C'est eux leur engagement. C'est-à-dire, le jazz est né dans l'apartheid. Donc, comment conserver une musique qui n'a plus son côté anti-apartheid?
Et en tout cas, c'est illusoire de croire qu'une esthétique, parce que c'est une esthétique, est engagée par définition. Je pense que vraiment, dans tous les secteurs, que ce soit dans le jazz ou dans la chanson française, etc., il y a vraiment des courants, en fait. Et il y a une partie, enfin, il y a des pratiques engagées, d'autres qui ne le sont pas, même d'une même esthétique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le chant, les luttes pour avoir raison sur la création.
Enfin, quand c'est explicite. Le jazz, c'est beaucoup plus explicite comme lutte. Bien que ce soit, comme je dis dans l'intitulé, une concurrence déniée. Mais quelque part, c'est beaucoup plus explicite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire à l'autre qu'on fait de la musique contre lui, il suffit qu'il écoute ce qu'on fait. Vous saisissez? Alors que dans le milieu intellectuel, on s'envoie des articles pour se contrer quand même. Bien que ça se fasse de moins en moins. Je pense particulièrement aux échauffourées entre Sartre et Lévi-Strauss, par exemple, où ils se répondent par articles interposés. Bon, on est vraiment dans une joute, là. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de dire qu'on fait la musique contre quelqu'un, puisque de toute façon, on est dans la logique du tout se vaut. Et on rajoute à ça l'intolérance esthétique sur les autres goûts musicaux, comme par exemple les musiques africaines, etc. Ça devient un monde complètement bloqué, le monde de la musique, je trouve, aujourd'hui. Enfin, je ne fais pas que le trouver, je pense que je pourrais l'argumenter, même si on arrive, on va dire, à la fin. Il va falloir que je me mette vraiment à écrire là-dessus, parce que c'est vrai que... Enfin, en tout cas, écrire, parce que je ne crois pas qu'on soit en capacité de montrer que la musique que je fabrique, par exemple, se construit contre d'autres musiques, explicitement.
Cage, il le disait clairement.
Explicitement. Comment ?
John Cage, il le disait clairement. Qui fait la musique contre...
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que comment créer une forme musicale qui se fait contre les autres formes musicales, tout en utilisant, on va dire, des références, bien évidemment, mais des références qui sont comparées, des références qui sont choisies. C'est-à-dire, on va au-delà de ce que de la musique, si vous voulez, au-delà de ce qu'on écoute dans la musique, mais on va aussi s'intéresser, ce qui est beaucoup plus rare pour les musicologues, par exemple, à la vie du musicien, ou en tout cas le contexte social d'un musicien, le contexte social, et là c'est beaucoup plus, on va dire, la sociologie ou l'histoire qui fabrique ces choses-là, ou l'anthropologie. Voilà. C'est-à-dire, peut-on aimer... la question est trivialement posée, comme je vais le faire maintenant, mais peut-on aimer Karl Orff, la musique de Karl Orff, alors qu'il était nazi? Ben, ce sont des vraies questions. La musique, elle passe partout. Voilà, c'est bien ça son problème, c'est que, c'est une de ces problématiques. Et je vous ai parlé de la musique. On a parlé du musicien. On n'a pas forcément parlé du chanteur, mais je pense que le chanteur a la même position. Ce n'est pas parce que on chante avec des paroles très engagées que on a l'espace de style de vie engagé. C'est comme si on confondait Baudelaire et Rimbaud. C'est pas les mêmes. Il y en a un qui est sur la bohème, et quelque part qui est un hasard, on va dire, de la littérature, enfin un hasard. Je veux dire qu'il y en aurait plein d'autres possibles. Et de l'autre côté, on a Baudelaire qui dit que la posture de poète contient la posture de critique. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes, voyez. Et pourtant, on peut aimer Baudelaire, on peut aimer Flaubert, on peut aimer Rimbaud, mais c'est pas les mêmes. Ils ne sont pas placés de la même façon dans les mondes sociaux, quoi, dans le monde de l'art. Voilà. Je sais pas si c'est. En tout cas, ils sont hiérarchisables. Et je répondrai par une phrase de Marx: plus il y a de la lutte, plus il y a de l'histoire. Et si j'ai envie que l'histoire continue et que justement on ne soit plus dans un conformisme, un tout se vaut, je pense qu'il faut continuer à proposer des luttes, oui. Voilà. Pour que l'histoire continue à exister. Parce que quelque part, le travail historique, justement, sur l'analyse ou la réflexivité ou la condition critique, c'est aussi un travail historique. Il faut se séparer des évidences, il faut se séparer comme enfant de la télé, il faut se séparer comme enfant ou se revendiquant de Zappa, ou se revendiquant de tout ce, ou de Metheny ou d'autres, de tout ce monde construit dans les années 70 qui était un monde de pure consommation musicale. Et c'est pas parce que les artistes se déchiraient et qui mouraient de la drogue, que c'était des gens engagés. Voilà. Voilà, il faut penser à toutes ces choses-là. Il faut mettre en question tout ça. Non, c'est pas ça l'idée. Et c'est pas l'idée de dire qu'une musique est... La hiérarchisation, pour moi, elle n'existe pas là. Elle n'existe pas sur le bien ou le mal, sur le mauvais ou le bon, sur le noble et l'ignoble. elle ne repose pas sur des dichotomies très archaïques, à vrai dire. Non, elle repose sur l'histoire de l'art. Elle repose sur une position de qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce que tu fabriques, qu'est-ce qu'on fabrique. Donc il y a la notion aussi, certes, sur l'énergie à dépenser pour pouvoir faire vivre, mais en même temps, Flaubert, il dépensait son énergie à faire Madame Bovary, pour lequel il a été condamné. Donc qu'est-ce qu'on fabrique ? Est-ce qu'on va dépenser son énergie à faire exister cette position-là par la production musicale qu'on va faire ? Et comment on se situe justement dans la possibilité de faire une œuvre ? C'est-à-dire l'évolution selon les albums, par exemple, qu'on peut faire, les compositions, les écrits, comment ça se fait quand même que la majorité des musiciens n'écrivent pas, ils attendent qu'on fasse d'eux des biographies, c'est quand même grave. C'est quand même grave qu'un musicien ne sache pas écrire, ne sache pas parler. Voilà. Donc il y a un gros souci, je pense, vis-à-vis de... Enfin, en tout cas, je pense qu'il va finir par y avoir un gros souci avec la musique, et on va se réveiller beaucoup trop tard, nous les musiciens, de ne pas avoir produit un discours. Voilà. Et pour moi, la production d'un discours, c'est rentrer dans les luttes. Voilà. Et c'est être en capacité aussi, comme on peut identifier un style d'écriture, comme on peut identifier, comme Flaubert disait que, à l'époque, certains écrivains écrivaient certaines histoires, comment ils menaient les histoires, quelle était la narration, la forme, le style. Eh bien, je pense que par le style, la forme de la musique, en travaillant sur les formes de la musique, sur l'esthétique de la musique, on peut très bien aussi se positionner contre d'autres formes de musique. Par exemple, pour terminer, aujourd'hui la pop mondiale est surpuissante. Il n'y a aucune personne dans la pop mondiale qui est un vrai contre-pouvoir contre la pop mondiale. Or, on sait très bien, depuis l'histoire de l'art, depuis l'histoire des critiques, même intellectuelles ou politiques, on sait très bien que si on veut critiquer un monde ou être efficace dans la critique de ce monde, il faut en faire partie. Or, la starification continue à faire tout son développement, continue à être vue par tout le monde, à être visible et à développer son discours, qui n'en est pas un d'ailleurs, mais en tout cas qui fait mouche. Il n'y a pas de contre-pouvoir à l'intérieur de la pop. Et s'il y a des contre-pouvoirs à l'intérieur de la pop, ce sont des jeunes qu'on laisse rentrer et qui repartent très certainement aussitôt. Des gagnants de concours, un jeune qu'on va laisser rentrer médiatiquement, écoute le son vintage, écoute, etc., etc. Bon, voilà. Quand je dis etc., il faudrait développer, on est bien d'accord. Mais voilà. Et je pense qu'il doit y avoir un contre-pouvoir du jazz dans le jazz, un contre-pouvoir des musiques du monde dans les musiques du monde, un contre-pouvoir de la chanson française dans la chanson française, etc., etc. Sinon, il n'y aura plus d'histoire. L'histoire va mourir.
Et juste sur le...
Attends. Mais un contre.
Contre le du monde, c'est pas ce que vous trouvez, mais ça existe, mais certainement parce que c'est par incapacité à créer son économie, ça n'existe pas, ça ne peut pas aller jusque dans l'espérance de la société. Je voulais vous poser une question.
Mais juste, je réponds sur. Pour moi, le contre-pouvoir n'a rien à voir avec la médiatisation. Je dirais même qu'il est inversement proportionnel à la médiatisation, son efficacité. Un contre-pouvoir n'est pas médiatisé, ne peut pas être médiatisé, vu ce que nous proposent les médias aujourd'hui.
Alors comment tu peux savoir s'il existe ou pas ?
C'est pas possible. De quoi ?
Alors comment tu peux savoir s'il existe ou pas ?
En ayant une position critique et en faisant un travail justement d'écoute et de repérage de différents musiciens, en écoutant et en se situant dans une histoire de la musique aussi. Donc il ne s'agit pas d'être musicien de musique du monde pour lutter contre le jazz. Il s'agit d'être musicien de musique du monde, par exemple, pour lutter contre les musiques du monde. Dit autrement, lutter contre soi-même. Voilà. C'est-à-dire ce que nous sommes. Ce que nous sommes devenus malgré nous. Et ça, c'est un travail qu'on apprend, on va dire, à faire en sociologie, voilà, en sciences sociales. C'est le fait de lutter contre soi-même. Et donc de lutter contre sa propre production pour la contrôler. S'il n'y a aucun contrôle sur la production qu'on fait, on ne pourra pas espérer faire du contre-pouvoir. Oui.
Il y en a des contre-pouvoirs dans la musique, en particulier dans la musique classique, entre différentes écoles d'interprétation, entre différents compositeurs aussi, qui qui s'embrassent pas sur la bouche, qui ne pas, loin de là. Hein. Et donc là, il y a des personnes qui sont prêtes à, je dirais pas jusqu'à stadier, mais par exemple, à s'éviter autant que possible et ne jamais se rencontrer. Il y a bien des tendances comme ça qui sont antagonistes. Elles existent, je pense que.
Alors, est-ce que ce sont des contre-pouvoirs ou est-ce que ce sont des luttes? C'est pas parce que sur la notion de contre-pouvoir, il y a la notion de lutter contre les choses légitimes, légitimées, si vous voulez, historiquement. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des luttes entre compositeurs ou est-ce qu'il y a des luttes entre interprètes? Voilà. Voilà. Mais est-ce que c'est pour la vérité d'une œuvre passée ou pas? Ça peut.
J'ai une œuvre en tête, je ne sais pas si vous avez peut-être trouvé. Le pianiste, il s'appelle Glenwood, absolument. Bon. Il a toujours joué complètement différemment de tous les autres. Il n'admettait absolument pas les interprétations de ses collègues.
Mais là, si je peux me permettre, c'est un autre monde. On n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui.
Peut-être, mais il n'empêche que Teddy se vend toujours et ce qu'il a fait est toujours discuté.
Absolument. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une fragilité ou en tout cas une baisse très significative de ses capacités justement à être grand interprète par exemple et à proposer du contre-pouvoir critique? Moi je le pense. S'il y a une baisse de niveau aussi. S'il y a une baisse de niveau, il y a une baisse d'exigence. Ça ne veut pas dire que c'est dû aux individus. Mais il y a quelque chose, j'ai enseigné l'anthropologie et la sociologie, j'ai vu en l'espace de 20 ans une baisse de niveau incroyable. Au conservatoire, j'ai enseigné aussi une baisse de niveau incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, baisse de niveau? Ça veut dire une baisse de curiosité aussi, une baisse de tranquillité, une baisse de tension, sur justement vouloir avoir faim, en découdre, vouloir être non pas seulement parmi les meilleurs, mais être parmi les plus aimants, l'amour de l'art justement, celui qui est le plus désintéressé et en même temps le plus inspiré.
Et sur quoi tu t'appuies pour parler de baisse de niveau, je ne comprends
pas. Déjà sur une expérience.
Oui, non, mais d'accord.
Oui, d'accord.
Une expérience ne peut pas être forcément généralisable.
Tout à fait.
Surtout en tant que sociologue, et tu parles en tant que sociologue.
Eh bien, c'est une baisse d'attention.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de franchement nouveau aujourd'hui par rapport à son propos?
Peut-être pas, alors. Ouais.
C'est quoi la baisse de niveau, en fait? Technique
c'est un problème de création, quoi. C'est-à-dire les gens sont de moins en moins créatifs.
Mais sur quel critère tu appuies ça, cette affirmation-là?
Sur la capacité à mobiliser, par exemple, des nouvelles façons de penser. Quantitativement. Je ne sais pas. Une structure de pensée. Entre la qualité musicale, la qualité musicale, est-ce que c'est une capacité, est-ce que c'est une qualité de composition, de compositeur? Ou pas? Est-ce que la qualité musicale d'interprète ou de compositeur? De créateur? Je pense y mettre la variable aussi de compositeur. Enfin, de compositeur, de capacité à créer ou à faire une proposition.
Puisqu'ils apprennent empiriquement en faisant.
Ouais, mais si on parle du hip-hop, voilà un mouvement. Ah bah, c'est l'utilisation des samplings, c'est-à-dire de choses existant déjà et en les mettant, ça a commencé avec la cassette, avec le magnétique, fin des années 70. Oui, mais ça n'empêche pas que ce soit des musiciens ceux qui le font, s'il y a d'autres esthétiques. Si c'est, le sampling est utilisé dans d'autres esthétiques, ça veut dire que le sampling est utilisé dans le rock, est utilisé dans le jazz, dans les musiques acousmatiques, dans... Donc, pas de souci. Enfin, je vois pas où est la question de qualité. Je valorise pas ça, c'est un fait.
C'est une réalité.
Ouais. C'est une réalité. Mais c'est pas. Alors, une pensée structurée. Pour moi, les musiques pygmées sont des musiques structurées. Il y a une pensée structurée à la musique pygmée. Donc, je veux dire, vous n'allez pas m'avoir là-dessus sur le tout est relatif. Non, mais je rigole. J'ai une bonne tête. En général, je rigole bien. L'autodérision, c'est la base de se moquer de soi-même, justement. Comme principe de connaissance, si vous voulez. Non, mais la musique pygmée, pour moi, il y a des structures volontaires et des structures culturelles. Si vous voulez, les structures volontaires qui peuvent être individuelles, c'est-à-dire je vais changer, je vais évoluer, je vais me former, je vais faire un travail de rupture, je vais faire un travail historique, je vais faire tout ce que vous voulez, si, pourvu qu'on puisse justement être dans une situation d'amélioration et non bloquée, d'interdisciplinarité, pas simplement univoque, c'est-à-dire je suis praticien d'instrument, etc. Il y a aussi les musiques structurées, les musiques culturelles qui peuvent être extra-européennes, comme européennes d'ailleurs, dans le monde rural par exemple. Donc je vois pas trop le rapport avec le fait d'être... Enfin, vous voudriez que la structure soit quelque chose de volontaire, or c'est pas forcément le cas. C'est que justement nous aurions besoin de récupérer de la structure culturelle. Nous l'avons perdue. C'est-à-dire qu'il y a cette ambiance, comme dit Lâche ou Sénette ou d'autres, à l'individualisme, cette ambiance au narcissisme, à toutes les angoisses, à la recherche du bien-être, du bonheur, etc., c'est au détriment de formes collectives. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à cumuler, le bonheur personnel avec le bonheur collectif. On n'y arrive pas. Ça marche plus. Depuis les années 70, d'après certains analystes américains, on va dire. Donc c'est ça, c'est les formes collectives. C'est ça qui peut permettre d'avoir une tradition critique. Des formes collectives. Donc je sais pas...
Sur la question initiale qui était... Enfin, juste, j'ai l'impression que votre question c'était en quoi a-t-on besoin d'avoir un esprit critique, c'est ça, pour faire de la bonne musique? Et en fait, je pense que c'est vraiment une question de vision de l'art. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de le vivre et de le voir. Il y a la notion de virtuosité, technique, etc. Et là où se situe, je pense, Richard, c'est vraiment sur la question du sens. Et on travaille ensemble, donc voilà, je vais donner son exemple parce qu'il est, je trouve, très concret et qu'il peut nous permettre de voir ce qu'il veut dire. Donc, avec le groupe Antiquarks, on est dans le champ des musiques du monde. Il se trouve que le champ des musiques du monde, il y a donc des musiques du monde valorisées, qui sont en général les musiques extra-européennes et savantes, faites par des vieux maîtres. Je la fais très rapide, ok ? Donc ça, c'est quand même des musiques dans les musiques du monde qui sont placées du côté de la légitimité. Voilà. Il y a une problématique en France, notamment, sur les musiques traditionnelles françaises et son intégration dans la régionale et son intégration dans la culture française qui est un peu ambiguë, il y a un rapport un peu ambigu là-dessus sur les musiques du monde, enfin sur les musiques trad en France, et qui sont en général en conflit un peu, voilà. Et il y a aussi les musiques actuelles du monde.
Qui en sont encore à la définition entre populaire et amateur, voilà. Entre professionnel et amateur, etc.
Ouais. Après, il y a les musiques populaires, donc musique électrique, avec des grands noms qui sont très partie liés à la pop, en fait. Ok, voilà. La démarche, en tout cas d'Antiquark, c'est de proposer une musique qui mélange instruments traditionnels français électrifiés et musique du monde extra-européenne, ok, avec l'idée de se dire en tant que français, parce qu'en fait c'est parler.
Là, tu rajoutes à ça tout l'acquis de la musique occidentale harmonique.
Voilà. Et c'est de dire, en tant que Français, moi, je fais de la musique du monde, mais la musique du monde, et voilà, il se trouve que le parti pris artistique, c'est de dire que c'est une musique de fiction. Et si la musique algérienne avait rencontré en France, avec tous les gens qui sont là, qu'est-ce que ça aurait fait comme musique s'il y avait eu une rencontre et si ça avait été une musique populaire, plus globale
voilà. C'est-à-dire, en gros. Monsieur parlait du jazz tout à l'heure. Le jazz, c'est quand même une particularité toute spéciale dans le sens où elle est née. Le jazz est né dans un pays qui a colonisé les mêmes personnes qui ont créé le jazz. Quoi. Donc nous, que faisons-nous du colonialisme?
Voilà. Et forcément parce c'est-à-dire, que voilà, je suis praticien des musiques du monde. Et
mais
je
pas
me
que,
pose la question
mais
du colonialisme
que,
aussi.
Enfin oui, mais pas seulement. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que le rendez-vous manqué aussi avec la musique, il est basé sur cette espèce d'ethnocentrisme qui consiste justement à ne pas avoir. Alors bien sûr, à ne pas avoir considéré à ne pas avoir intégré à l'intérieur d'une légitimité musicale, historique, les musiques que la France a colonisées depuis le 19e siècle. Voilà. Et ça. Ah oui, mais c'est une proposition.
Donc la pensée.
Mais au moins c'est une proposition.
La question de la pensée structurée, en tout cas, elle alimente le propos, quoi, en l'occurrence. Et ça ne veut pas dire qu'en tant qu'interprète, et même qu'il n'a pas pu participer à des compositions de ces groupes dont on a parlé, musique savante, s'y être intéressé, etc. Mais c'est-à-dire que à ce moment-là d'une carrière, ou en tout cas plutôt d'une vie, il y a la proposition de dire je prends une position artistique qui est pas qu'une qui va se réaliser musicalement, techniquement, etc. Mais cette position, elle est vraiment, elle est aussi en lien avec ma pensée et avec comment je vois le monde. Est-ce que je ne sais pas si vous voyez un peu plus, voilà.
Tant mieux. c'est le début d'un nouveau commencement.
Très en nombre, je trouve qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de musiciens qui justement mixent les origines, qui prennent un chanteur de flamenco avec un musicien indien, avec des instruments africains et des mixités de style et tout. Il y a plein d'exemples de ce genre, certains qui sont un peu anecdotiques peut-être, mais d'autres qui ouvrent des horizons fantastiques. Et comment vous les voyez à ce moment-là?
Ben, je ne sais pas. Comment je les vois? Vous voulez parler de métissage, par exemple, ou ce terme-là?
Métissage de style, d'un point de vue géographique, on peut aussi rajouter des métissages de style.
Ben, comment je les vois?
Des musiques très classiques, très anciennes, très écrites, avec des musiques très beaucoup plus modernes, beaucoup plus improvisées, beaucoup plus spontanées, et tout ça, il y a plein d'exemples de ce genre dans tous les temps.
Ça serait peut-être le résultat d'une musique non dangereuse. Pour moi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai deux façons de le penser. J'ai une oreille émotive, qui va se baser sur l'interprétation et qui va écouter de manière plaisante, ou pas d'ailleurs, une oreille émotive, et un œil, c'est bizarre de parler d'œil pour la musique, parce que c'est pas vraiment le sens qu'on mobilise pour la musique, et un œil plutôt sociologique, c'est-à-dire une possibilité de placer là où sont ces musiques, sans savoir où elles sont. C'est-à-dire de les placer, où elles sont situées dans le champ artistique. Est-ce que c'est de la musique qui est construite à partir de la musique populaire? Est-ce que c'est un épiphénomène? Quel est le producteur qui a produit ça? On les fait venir d'où? Est-ce que c'est... etc. C'est-à-dire mettre du sens social à ces musiques. Donc au-delà du goût, si vous voulez. Moi, je dépasse les notions de goût. C'est-à-dire, à force d'avoir dépassé les notions de goût, j'en ai plus. Donc je les ai tous. C'est-à-dire, j'ai tellement travaillé là-dessus... qu'une musique, je ne fais pas que l'écouter, j'essaie de la voir.
C'est une forme de grille de lecture aussi.
C'est une grille de lecture. Ouais. Comme quelqu'un qui est en capacité de voir à l'intérieur d'un texte des formes, du style. On peut appeler ça aussi, c'est pas forcément pour moi, parce que c'est un terme un peu complexe, mais l'herméneutique, c'est-à-dire le sens caché à l'intérieur du texte, sans considérer le contexte. Bon, par exemple, mais...
J'ai l'impression que, ou je comprends mal, que tu privilégies très largement le discours sur l'art à l'art tout seul. C'est-à-dire, est-ce que l'œuvre d'art, la musique ou la peinture, d'ailleurs, n'exprime pas en soi quelque chose, contestataire ou pas, légitimé ou pas, mais tout ce que je t'entends dire autour de ce que tu viens de dire, d'ailleurs, c'est. Il faut systématiquement analyser, décortiquer, avoir un discours sur l'œuvre d'art, et ça change tout. Or, alors, de ce point de vue, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, l'art apporte en soi quelque chose, de positif ou négatif.
L'art, oui.
On partage ou on ne partage pas, mais.
Mais pas la musique.
Le message artistique, a priori, se suffit à lui-même. C'est-à-dire que les gens qui glosent sans arrêt sur l'œuvre d'art, à un moment, à mon avis, ils empêchent d'écouter, ils empêchent de voir, ils empêchent de ressentir. Donc est-ce qu'il faut systématiquement discourir sur toute œuvre d'art pour la rendre...
Je mets la musique à part.
Juste répondre sur la...
Mais la musique est tyrannique. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est un impérialisme, quoi. C'est exactement comme la psychanalyse. C'est-à-dire que... Mais ça, je ne parle pas d'elle. S'il fallait parler d'elle, je parlerais d'elle aussi, effectivement. Mais la musique est tyrannique dans le sens où elle fait partie de nos goûts, elle fait partie de nos possessions, et puis il faut surtout pas y toucher, quoi. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis quand tu dis que un discours peut très bien... Enfin, ça sert à quoi de discourir sur des œuvres d'art
Oui. C'est pas interdit de discourir, je dis c'est pas systématiquement un plus.
Alors, je pense qu'il y a deux choses aussi, c'est que toi, tu parles...
En tout cas, pour moi, je répondrai que c'est un plus, en tout cas pour moi, parce que ça me permet de créer la musique que je crée. C'est-à-dire que si je ne faisais pas ce travail, ma musique n'aurait pas cette forme. Ça semble très simple et en même temps très compliqué. Mais voilà, c'est aussi ça. Donc c'est la possibilité d'échanger avec d'autres aussi sur les formes des musiques. Est-ce qu'ils les choisissent ou est-ce qu'ils les contrôlent? Moi je pense qu'une œuvre d'art est contrôlée, mais voilà. Alors la musique à part, ça demanderait beaucoup de temps pour expliquer, en tout cas. Pourquoi la musique à part? Parce que la musique, d'abord, ça s'adresse à l'oreille. Que ce sont des sons qui ne disent rien. La musique ne dit rien. La musique, hein. Je ne dis pas le chanteur, le langage. La musique ne dit rien. Oui, mais bon.
Alors, il parle à contrario.
Non, parce que si je vous fais écouter de la musique pygmée, elle va rien vous dire. C'est un rapport de classe, le rapport à la musique.
Il parle sur la question.
Je vais vous envoyer des vidéographies,
sens,
vous allez.
Du sens, voilà. Par rapport.
Non mais vous, mais c'est pas le cas de toute la société. C'est pas le cas des ouvriers. C'est pas le cas de ma grand-mère qui est ouvrière. Mais si. Mais
je pense que là dont il parle.
Ce sont des hypothèses.
Ce soit un des arts les moins figuratifs. C'est-à-dire que prenons du théâtre, ok? Là le sens il est explicite. L'analyse, ça, enfin, comment dire, même s'il y a de l'émotion dans l'interprétation, etc., il y a un discours parlé, intelligible, sur, qui est quelque chose qu'on manipule tous au quotidien, un discours. Certes, il y a un rapport de classe dans la réception, etc. Il y a des différences. Mais le
figuratif,
sens,
c'est ça, figuratif.
Le sens,
la danse aussi, elle est figurative.
Le sens figuratif d'une pièce de théâtre en représentation est assez clair. Sur la question
de la danse aussi.
Des arts, enfin, de tout ce qui est pictural, etc., il y a même l'habitude, quand on va au musée, d'avoir un texte explicatif. C'est-à-dire qu'on met en rapport le sens. Là, c'était. Enfin, il y a des. Comment dire. Et l'œil est très habitué à classer. Il est aussi figuratif.
C'est son défaut. Hein.
Très contemporaine, moins compréhensible, etc. Mais on est quand même sur un art plus figuratif. Là, la musique, on est sur une association de sons. On ne parle pas de la chanson, d'accord, qui peuvent ne rien dire. Il est plus facile de dire qu'une pièce de théâtre est de droite ou de gauche qu'une musique.
Tout à fait.
Et évidemment, la musique classique n'est ni de droite ni de gauche. Personne n'aura l'idée même. C'est pour ça qu'on module. On est bien d'accord.
Oui, on est dans un monde de nuances.
Dire très très vite parce que. Voilà.
C'est pas établir des lois générales. C'est plutôt.
Et c'est la musique dans ce sens-là, pas dans un sens où il n'est pas émotif ce dont il parle, mais dans le fait que.
Ah oui, je ne me permettrai pas de toucher à votre émotion, surtout pas.
Dans le fait que c'est anti-figuratif au possible, quoi. Une association de sons est vraiment singulière, et que il faut avoir une oreille très avertie pour y mettre du sens. Il faut se dire, une prod, on reprend sur les exemples des musiques du monde, de l'électro avec des tablas, je prends un exemple d'un grand maître indien, c'est une association qui, par exemple, que je sais que Richard voudrait critiquer directement, pourquoi ? Parce qu'on est sur des lieux communs en fait. On est sur des lieux communs. On a le savant, maître, machin, qui va avec l'électro. C'est une prod, quoi.
C'est une prod.
En quoi, si on critique un peu la chose, en quoi
c'est intéressant pour l'art.
En quoi il y a un créateur derrière qui est dans une démarche. Je parle pas des premiers qui l'ont fait, c'est encore un peu différent, mais aujourd'hui, ça reste une prod. Mais parce que l'innovation, les tablas, ok. Alors certes, il y a la forme, ça peut être très bien produit, il peut même en reconnaître tout à fait la qualité esthétique de production, de mix, il n'y a pas de souci. Mais en termes de sens, ça pose question. Mais quand moi, en tant qu'auditeur, j'écoute des tablas, déjà, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, et du fait d'identifier le son, c'est quand même beaucoup plus compliqué que sur un tableau ou que sur une pièce de théâtre, ce genre de choses.
Ah non, mais il ne s'agit pas de vous convaincre. Il s'agit de convertir votre regard. Pour comprendre ce qu'on est en train de dire.
Donc, et là, la deuxième chose aussi, c'est que quand il parle, je pense que ton discours aussi, il est lié au fait de dire musicien, libérez-vous, quoi. Il y a aussi la posture de parler en tant que professionnel de.
Bien sûr.
Et de parler pour son secteur.
Ce qui pourrait vous interroger, ou alors c'est de la flagellation de ma part. Qui pourrait aussi vous interroger, c'est quand même étonnant qu'un musicien dise que la musique ne dise rien, quoi. Mais ça n'a pas l'air de vous interroger. Voilà.
Et je pense que c'est quand même, c'est quelque part une intervention pour les artistes aussi. C'est-à-dire, quand on est dans les cuisines de quelque chose, quand on est dans notre secteur d'activité, on peut relever des problématiques qui ne sont pas forcément visibles pour des gens qui ne sont pas. Il se trouve que l'art est très embêtant, et la musique est très embêtante parce qu'elle fait partie de l'art, c'est qu'on a quelque chose de public qui est vu par tous, approprié par tous, mais il y a aussi des spécialistes que sont ces professionnels-là. Voilà. Et sur la question du discours critique ou pas, moi je parle juste par rapport à mon métier. Ce que je dis simplement aux musiciens,
Que tu as du mal à travailler avec des musiciens, par exemple.
Et c'est aussi que si vous ne parlez pas de votre art, on en parle pour vous, tous les jours. Si vous parlez pas, si vous donnez pas du sens, il y a des programmateurs, tout le monde en parle en fait. Tout le monde se réapproprie ses projets, le remet dans un circuit, etc. Et que s'il réfléchit pas à sa propre production, il y a aucun souci. On n'attend pas à ce qu'il parle. enfin, à la limite, c'est arrangeant, parce qu'un discours, un musicien qui parle, c'est quand même chiant.
Ah, ça dérange, hein. Et c'est même, je vous le dire.
C'est vraiment, c'est vu vraiment
je
comme...
Je suis le premier témoin, vous remarquez, j'ai dit témoin, pas victime.
Un orgueilleux, un chieur, un tout ce que tu veux, voilà, même dans la variété des chanteuses, bon, je prends cet exemple-là, mais qui ont un peu d'exigence, etc., sur le son, elles vont être chiantes, quoi. Enfin, il y a ce côté-là.
Alors, je continue voilà. dans ce que tu dis, je trouve que tu l'illustres assez bien. Mais je reviens à ta position justement quand tu es confronté à des musiciens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal quand on aide des musiciens à ce qu'ils nous fournissent des documents pour qu'on puisse parler d'eux. Fournis-nous un texte. Mais un texte, mais je vais parler de quoi? Tiens, t'as un rendez-vous avec un journaliste. Mais je vais dire quoi avec un journaliste? Lisez les interviews de musiciens, vous allez vous emmerder.
Il faut le dire franchement, souvent c'est quand même pas très
intéressant. C'est terrifiant, ils n'ont rien à dire. Et moi, ça m'inquiète énormément, voilà. Donc,
parce
je fais part de mon inquiétude.
Et il vous parle de ses collègues. Il vous parle des gens avec qui, en fait, il travaille. Donc, c'est aussi, je pense, comme ça qu'il faut l'entendre. Et personnellement, moi qui suis à l'interface, c'est-à-dire que je fais de la diffusion, je vais appeler des programmateurs, par exemple, pour leur vendre, ou en tout cas leur proposer. Il nous est interdit, nous, en tant qu'intermédiaires, de parler de l'art. Parce qu'en fait, on est quand même sur un totalitarisme du goût, hein. J'aime pas. Donc, les programmations sont faites au goût. Un goût, quand même, bon. Bourdieu et d'autres ont dit que quand même c'était un peu lié à la classe sociale, ces catégories d'entendement, tout ça. Donc quand est-ce qu'on en discute? Quand est-ce qu'on sort de sa posture? Enfin, et du coup il y a une forme de tabou en fait d'en parler. Et on en arrive à devoir ne créer que de la relation amicale et souriante pour que les choses puissent être dites sans être vexées. Donc on a même nous en tant qu'intermédiaire face à quelqu'un qui choisit des spectacles, c'est très difficile de rentrer dans une discussion un peu intéressante et de fond. Parce qu'on n'en a pas la légitimité, mais quand ils sont avec l'artiste, en général c'est qu'ils l'accueillent, ils l'adorent. Donc, quelque part, des fois, moi je suis autant embêtée parce que la personne aime que parce qu'elle n'aime pas, en fait. Voilà. Et donc, toute cette intervention, elle est aussi liée à ça, à cette problématique, et dire que si musicien, tu ne parles pas avec les gens avec qui tu travailles, de ton art.
Enfin, de travailler dans ton secteur d'activité.
Dans ton secteur d'activité, discours, il est pris. Et il est utilisé, et en tout cas, et c'est-à-dire que
non,
ça marche.
En fait, si tu n'as pas de discours, ton esthétique musicale va être prise, voilà. Et si tu ne te réappropries pas un discours sur ton esthétique musicale et ta composition, on en parlera à ta place.
Et quelque part, que ça marche ou pas, le résultat est le
même. Je veux dire, on connaît l'histoire des porte-paroles. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de trouver des porte-paroles comme ça dans un secteur d'activité qui parle à notre place et qui peuvent dire n'importe quoi et faire exister quelque chose dont vous serez dépossédé, à vrai dire. Donc, il y a un travail, il y a quelque chose de, comme, quand même de dépossession aussi dans ce secteur d'activité.
Une
étape
d'interprétation en art.
Oui.
Que,
ah ben, tout à fait. Ah oui, mais attendez,
c'est tout à fait
normal qu'on se balade un petit peu en tant que musicien aussi, qu'on se balade aussi dans différentes formes d'art concernant des problématiques. Enfin, il y a des problématiques communes quand même, on est bien d'accord. Et vous le soulignez tout très justement, il y a des problématiques communes. Mais on trouvera peut-être majoritairement beaucoup moins de sculpteurs qui savent moins parler de leur travail que de musiciens.
Alors, en spectacle vivant,
peut-être,
parce
peut-être.
Que ça c'est ma partie en tout cas sur le
spectacle. Oui, mais n'insistons pas, c'est pas important.
Sur la partie du spectacle vivant, ça j'en suis certaine. Pourquoi le musicien est vraiment, est moins pourvu de discours? On parle juste de recherche de coproduction. Et de façon dont les tourneurs ou dans les gens qui vendent la musique se comportent avec les musiciens et de lien avec les institutions. Le musicien est beaucoup moins souvent structuré en compagnie et il est beaucoup moins directeur artistique d'un projet, donc il écrit beaucoup moins de dossiers on en attend beaucoup moins de lui. Il est beaucoup en général, il y a une structure qui a un certain nombre et un catalogue d'artistes en fait qui propose, et
on
ça le dégage un tourneur et ça le
un
dégage
tourneur.
Vraiment d'une responsabilité. Donc même dans la comment dire, tout est fait pour le musicien pour qu'il ne soit pas impliqué dans cette question-là. Et quand on parle du musicien, en fait, encore faut-il qu'il soit leader de son projet. Parce que quand on parle du musicien-interprète, trouver aussi sa forme, en tout cas, Un peu plus que l'intérêt, parce que l'intérêt, le feeling, la question de, enfin, naturellement, là où il va être porté en termes d'esthétique, d'affinité, c'est une chose, mais qu'un interprète ait un discours fort sur sa posture et sur son sens, le sens de son travail au-delà de son intermittence et des questions concrètes, il y a une vraie difficulté, et en plus, ils en souffrent à un moment. À un moment, ils perdent le sens et ils perdent pied aussi.
Oui, mais ils se marient, ils deviennent propriétaires, ils ont des enfants,
voilà.
Donc il n'y a pas de problème.
Ça, c'est une solution pour tout le monde.
Donc il n'y a pas de problème.
De faire des enfants, c'est une solution pour tout le monde.
Voilà.
Donc, enfin, moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est qu'en en termes de fréquence, il y a beaucoup d'indices qui font que le pauvre, on lui demande jamais un texte, et puis on lui demande jamais de savoir parler. Et en plus, quand il est musicien, il ne va même pas aux interviews, quoi. Puisque le leader,
alors,
il va.
Alors attention, ça ne veut pas dire que le musicien, quand tu dis le discours c'est difficile, etc., qu'il n'est pas fier de lui-même et qu'il n'impose pas son point de vue. Hein.
Et par contre, il s'est parlé au film.
Voilà. Après, il y a la confusion. Après, il y a la confusion entre je suis un artiste et je drague. Mais bon, ça c'est encore autre chose.
Mais voilà, ça c'est du.
Il faudrait s'interroger aussi sur l'homogamie ou les stratégies matrimoniales des musiciens aussi. Ah ben oui, mais c'est ça la sociologie, je suis désolé, enfin une sociologie en tout cas, elle ne fait pas de cadeaux, enfin en tout cas c'est plutôt chouette, étant donné qu'on n'a qu'une vie. Monsieur, on va terminer après. Alors, je ne sais pas.
Moi, je suis d'accord sur la question de la manipulation des mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans son métier, il utilise vraiment les mots au quotidien. Et il sait causer. Alors, parfois, c'est de la rhétorique, c'est insupportable et tout ça, certes, mais il sait causer. Et il y a des musiciens, ils ne savent vraiment pas causer. Enfin, c'est vraiment... Oui.
Oui, mais c'est exactement comme le pour trouver faire l'analogie.
Non, parce que le footballeur n'attend pas d'émotion, il n'est pas tellement bon ou bien d'autres. Non, le footballeur.
Bah oui, mais là après on parle des goûts, vous voyez, ça ouais. c'est voilà. Après c'est difficile, mais c'est difficile. Mais disons que c'est que le.
Oui, tout à fait.
Oui, parce que comme dirait Zidane, le plus important, c'est pas ce qu'on dit, c'est comment qu'on le dit. C'est le pauvre Zidane. Il s'avère que je suis footballeur par ailleurs, mais anti-starification, quoi.
Après, juste sur l'histoire, en fait.
Excusez-moi, je dirais quelque chose sur le pour clore en tout cas. Oui. Bien sûr que j'adore quand un musicien joue, mais il ne fait pas que ça. Voilà, c'est tout. S'il pouvait être indemnisé à chaque fois que indemnisé en parole et en discours à chaque fois qu'il ne joue pas.
Le pauvre.
Mais bien sûr que je préfère quand un musicien joue. Mais ouais, moi aussi, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, il est fait pour ça. Il est fait pour ça. Mais bon, faut se réveiller là. Enfin, voilà. Moi, c'est en tout cas ce que je. Faut se réveiller parce que sinon on restera dans sa ville, on bougera pas. Enfin, de toute façon, c'est ce qui se passe. Hein. Passer les premiers élans de la jeunesse et de la fougue vis-à-vis d'une forme de don de soi ou en tout cas de vocation peut-être. La vocation dure de moins en moins aujourd'hui. Ce qui est de l'ordre de la vocation ou du don de soi. Tu voulais terminer par quoi ?
Ouais, juste que le monde est en crise, et que le monde de la musique est en crise, et que le musicien vit aussi une crise, quoi. Et que, voilà, et c'est plus une exhortation à dire dans ce secteur aussi, alors que eux, on les attend pas forcément. Il faut qu'ils s'emparent du sens de leur métier, en fait, et qu'on puisse échanger sur sur tout ça. Et sur le fait, en sachant qu'il a des conditions, et c'est pour ça que ça a commencé sur l'intermittence, il y a des conditions, par essence, par nature en tout cas, concrètes, qui l'amènent à être un... Comment on appelle ça ? À faire cavalier seul, en fait. Et tout est fait, quelque part, malheureusement, même si ce statut est formidable par plein d'aspects, il peut aussi... encourager la recherche des 507 heures, point. Et de ne pas voir au-delà que de sa pratique de musicien et de vivre de la musique et d'être dépossédé de toutes ces autres questions qui sont importantes pour le secteur. Voilà, c'est tout.
Oui, et puis vive l'expérimentation, mais l'expérimentation du discours aussi, l'expérimentation d'une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec le système scolaire, mais qui est une forme d'intelligence de réflexion à qu'est-ce que c'est mon métier, qu'est-ce que c'est mon rôle dans la société. Est-ce que c'est que de jouer ou est-ce que c'est de proposer des formes musicales aussi, des formes musicales nouvelles. Comment faire de la nouvelle musique? On dit que tout a été fait. Je pense pas. Enfin, alors ça aussi, c'est un discours qu'on dit régulièrement, que tout a été fait. Mmh. Je pense pas. Je pense qu'il y a moyen, il y a des conditions qu'on peut créer pour proposer certes des choses, mais de toute façon, l'histoire a toujours montré qu'il faut toujours recommencer parce que beaucoup de choses meurent avec nous, on va dire. Il n'y a pas que les vieux Africains qui font disparaître des bibliothèques. Hein. Je crois aussi que quand le dernier poids lui est mort, il y a une bibliothèque qui est morte, et quand il y aura le dernier résistant qui sera mort... il y aura quelque chose de mort aussi, donc voilà, il faut toujours recommencer, à vrai dire. Il faut accepter de recommencer. Et ça, on ne nous apprend pas à recommencer. On pense qu'on est à la fois omnipotent et à la fois angoissé. C'est très paradoxal.
Et les puissants sont bien heureux que la galère, que la précarité aspire en fait toutes les énergies dans de la survie, et non pas dans une réflexion et dans le fait d'en sortir. Et en fait, c'est aussi l'occasion de dire soyons vigilants. Certes, nos métiers sont difficiles. Le métier de musicien n'est pas facile. Il y a vraiment plein de choses qu'il traverse. Mais
j'aurais souhaité le développer, mais justement, le musicien, il pense peut-être pas qu'il est aspiré parce qu'il se croit libre. Donc,
Et parfois, donc la galère justifie.
Ce sont des illusions. C'est-à-dire, le fait de se sentir libre lui suffise à se considérer comme étant privilégié dans la société. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est pas à ce compte-là ou c'est pas avec ces arguments-là qu'on ne produit pas de la critique, quoi.
Et à l'inverse, peut-être d'avoir une vie irrégulière avec des cachets, des périodes de chômage, c'est pas ça qui fait qu'on est plus libre que quelqu'un qui fait 8h midi, 14h-17h. Parce qu'en fait, il a plein de possibilités de se croire plus libre que l'autre. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a perdu son statut, ou c'est pas parce qu'on galère à le boucler et qu'on le boucle, et c'est pas parce qu'on galère qu'on est engagé. Et alors après, ça ne veut pas dire que
il y a beaucoup de confusion.
Il n'y a pas une forme de fierté à sortir de la galère. Enfin, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas un discours de droite. Quoi. Mais par contre, si on veut être responsable au vu de la situation dans laquelle on est aujourd'hui tous en la société, ça ne suffit pas à l'engagement. Enfin, faire vœu de et souvent et surtout pour un musicien, faire vœu de pauvreté entre guillemets, c'est certainement pas un engagement parce que ça ne suffit pas. Donc, ça peut faire partie d'un engagement de dire, bah voilà, j'ai choisi de m'orienter sur ces esthétiques. Ça peut être la conséquence d'un certain nombre de choix hyper honorables.
Mais c'est ce qui se passe dans le don de soi. Hein.
Voilà, mais ça ne peut pas être l'unique chose. Et dans notre secteur, il y a beaucoup de quelque part de dire, je suis engagée parce que je suis pauvre. Il y a un truc comme ça un peu parce que je galère et quitte à galérer. Sachons pourquoi. Voilà.
Oui, c'est-à-dire brûlant des voitures, mais avec des objectifs. Quoi.
Et à la limite, si tous les gens qui galèrent, eh ben, on s'empare de ce sens-là, ça fera une force positive et collective assez énorme, en fait. Mais emparons-nous de cette chance-là aussi.
Merci Sarah d'avoir accepté.
Merci Richard de m'avoir invité.
Merci à vous.